Chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Oratoire du Très-Saint-Sacrement. Ce guide a été réalisé par l'association Jonathan Livingstone ODV avec le parrainage de la municipalité de Carigny grâce au fonds du Plan National de Relance et de Résilience du ministère de la Culture, inclus dans la mission 1, numérisation, innovation, compétitivité, culture et tourisme, et composante 3, tourisme et culture 4.0. L'oratoire du Très-Saint-Sacrement est un lieu d'une grande valeur historique et artistique, créé à la demande du baron de Carigny Vincenzo Seguin, la Grua Talamanca, et de Matteo Ianello, vicaire forain de la curie de Carigny. À leur demande, l'évêque de Mazare envoya au pape Paul VI une pétition pour instituer une compagnie du Très-Saint-Sacrement à Carigny. Cette demande a été acceptée par un bref pontifical daté du 1er juillet 1557. L'objectif de la compagnie était de diffuser le culte de l'Eucharistie, en réponse aux hérésies luthériennes et conformément aux directives du Concile de Trente, qui s'est achevé en 1563. Le premier siège de la congrégation se trouvait à l'intérieur de l'église mère, dans la zone aujourd'hui occupée par les trois dernières chapelles à gauche, avec une entrée dans la zone où se trouve maintenant l'autel du Sacré-Cœur, autrefois dédié à Saint-Sébastien. Grâce à des revenus considérables et à de nombreux legs testamentaires, la compagnie devint rapidement l'une des confréries les plus riches. Et, au début du XVIIe siècle, il fut possible de construire un nouveau siège. À la fin du même siècle, il fut décidé de décorer et d'enrichir l'intérieur dépouillé du nouveau siège en s'inspirant des oratoires de Palerme. La façade de l'oratoire du Très-Saint-Sacrement, adjacent à l'église mère de Carigny, présente une disposition simple et un aspect plutôt sobre, mais enrichi de détails ornementaux au niveau des entrées et des fenêtres. L'ensemble architectural peut être décrit comme suit. La partie supérieure de la façade suit la ligne du toit en bâtière, deux pentes qui convergent vers le faîte, créant un profil en forme de pointe simple et dépourvu de frontons ou de tympans ornementaux. Le mur est enduit et, bien qu'il présente aujourd'hui des traces de jaunissement et une patine d'humidité, il conserve une uniformité évidente qui met en valeur sa forme essentielle. Visuellement, on distingue deux axes verticaux principaux qui renferment les portes et les fenêtres. La répartition horizontale se concentre essentiellement sur deux niveaux, celui inférieur des entrées et celui supérieur des ouvertures des fenêtres. La symétrie est donnée par les deux portails jumeaux en bas et les deux fenêtres rectangulaires alignées en haut. L'accès se fait par deux portes en bois sculptées, réalisées au XVIIe siècle par un auteur inconnu. Chacune est encadrée par une structure décorative en stuc ou en pierre qui met en valeur son architecture. Les montants et l'architrave des portes sont enrichis d'éléments décoratifs tels que des moulures et des volutes, surmontées d'une large arche surbaissée, ou, en anglais, qui fait face et termine le cadre supérieur. Au-dessus de l'architrave, on remarque un motif en relief représentant une coquille qui sert de clé de voûte. Ce cadre légèrement en saillie crée un petit tympan incurvé, donnant du mouvement à l'ensemble. Dans la partie supérieure, à la hauteur des portails situés en dessous, s'ouvrent deux fenêtres rectangulaires entourées de cadres en stuc. Il s'agit d'une solution typique de l'architecture de la Renaissance tardive et du baroque sicilien qui souligne les ouvertures avec une élégance sobre. La façade donne sur la place de la cathédrale et la sobriété du dessin extérieur ne laisse pas deviner la richesse des stucs et des fresques à l'intérieur selon le style typique des oratoires baroques siciliens. Chers visiteurs, je t'invite maintenant à entrer à l'intérieur. L'accès à l'oratoire se fait par les deux portes en noyer sculpté du XVIIe siècle, d'auteur inconnu. En entrant, on arrive dans le vestibule où les confrères se déshabillaient de leurs vêtements, symbolisant la purification des péchés. Dans cet espace est conservée une ardoise représentant la Vierge de Monserrato, une œuvre réalisée sur ardoise par Giovanni Battista Arena en 1605. La salle principale de l'oratoire du Très-Saint-Sacrement est un véritable écrin d'art baroque, richement décoré de stucs et de fresques, qui exprime le lien profond entre l'art et la spiritualité. Conçue pour accueillir les confrères lors des cérémonies eucharistiques, cette salle reflète pleinement l'esprit de la contre-réforme, avec une attention particulière à la célébration de l'Eucharistie. En entrant, on est immédiatement frappé par la luminosité des stucs qui recouvrent les murs et la voûte. Probablement attribués à l'école de Giacomo Serpota, ils présentent un soin extrême du détail et mêlent harmonieusement sculpture et peinture avec une iconographie très riche qui guide le regard vers l'autel principal. La voûte de la salle principale est un chef-d'œuvre baroque. Les stucs blancs, raffinés et détaillés s'intègrent aux fresques polychromes, organisées de manière à raconter l'histoire du salut avec un accent particulier sur l'Eucharistie. Au centre se trouve le triomphe de l'Eucharistie, entouré des quatre évangélistes, des rois de l'Ancien Testament et de la présence de quatre des douze sibylles. Les parois latérales de la salle sont divisées en trois zones horizontales. La première zone représente la partie inférieure, où une longue banquette en noyer court le long du périmètre. C'est là que les confrères s'asseyaient pendant les célébrations. Au-dessus de la banquette, un socle décoré encadre des sections rectangulaires, divisant visuellement l'espace. La deuxième zone, qui se développe dans la partie médiane, est celle où sont placées les 8 statues allégoriques des vertus théologales et cardinales, placées dans des niches ornées de grandes coquilles avec des rideaux drapés, symboles de protection et de sacralité. La troisième zone, qui complète la partie supérieure, est celle où s'ouvrent 6 fenêtres, chacune richement décorée de stucs représentant des poutis, des festons, des paniers de fruits, des masques grotesques, des armoiries et des volutes végétales typiques du répertoire de Serpota. Cet environnement, par la combinaison de l'art, du symbolisme et de l'architecture, invite à la contemplation et à la prière, élevant l'esprit vers une compréhension plus profonde du mystère eucharistique. Mais poursuivons notre visite. Le long du linteau supérieur, 8 statues allégoriques, réalisées avec une grande maîtrise, symbolisent les principales vertus théologales et cardinales, ainsi que la représentation de l'Église. Toutes sont insérées dans un cadre décoré de fleurs, au centre duquel se trouve une grande coquille. La première, située au-dessus de la porte d'entrée de droite, représente la prudence. La vertu est ici rendue par l'élégance de la composition et la finesse d'exécution propres à l'école de Giacomo Serpota. L'attitude recueillie, la robe au drapé fluide et la référence aux attributs dévotionnels, le crucifié soutenu par la main gauche et le bras droit appuyé sur le ventre, tenant le cilice, souligne sa valeur théologique et morale, s'inscrivant pleinement dans le programme décoratif plus large de l'oratoire du Très-Saint-Sacrement. Juste après, se trouve la statue représentant la force. La figure est représentée en position assise, le buste droit et la main droite semblant attirer l'attention sur la poitrine. À gauche de la vertu, se trouve la colonne, symbole de la force, entendue comme une qualité intérieure de fermeté de volonté. La tête de la femme est couverte d'un voile léger qui, associé au regard tourné vers l'avant, suggère un mélange de concentration et de détermination austère. À côté de la vertu de la force se trouve la vertu de la charité, représentée sous les traits d'une mère qui allaite son enfant. Une représentation symbolique très répandue dans l'iconographie sacrée baroque. La figure féminine est assise, le buste incliné vers le petit pour s'occuper de lui. Le bébé est tourné vers le sein maternel, exprimant par le geste de ses bras et la tension de son petit corps, le désir et la confiance typique de l'acte d'allaitement. L'ensemble crée un dialogue délicat de regards et de gestes entre les deux, soulignant une valeur symbolique intense, rendant visible l'idée que la charité, nourrir ceux qui en ont besoin, constitue le cœur de la vie spirituelle au sein de l'oratoire du Saint-Sacrement. La dernière vertu placée à gauche du maître-autel est la foi. L'œuvre se caractérise par un drapé souple et enveloppant, un visage délicatement modelé et un riche décor baroque derrière lui, typique du répertoire de l'atelier de Serpota. La femme est représentée dans une attitude posée mais dynamique, avec un genou levé qui met en valeur le drapé abondant. Sa main repose sur un petit socle d'une colonne tronquée, où elle tient le calice eucharistique, me soulignant l'idée de la foi chrétienne fondée sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. La façade de l'abside est encadrée d'une riche décoration en stuc blanc, typique du style baroque sicilien, avec des éléments ornementaux comprenant des motifs floraux, des anges et des reliefs raffinés. Il est surmonté d'un arc décoré de volutes et de détails sculptés, au centre duquel, soutenu par des anges et placé sur une nuée, se trouvent le calice et l'hostie eucharistique finement décorés d'or, surmontés d'une couronne majestueuse. Sur les colonnes latérales, à mi-hauteur, se trouvent deux statues représentant à gauche Josué, le héros biblique qui guida le peuple d'Israël dans la conquête de Jéricho en faisant s'effondrer ses murs en sonnant des trompettes de bélier. La pose énergique, le regard extatique et la robe flottante soulignent le caractère typiquement baroque de l'œuvre, qui vise à mettre en valeur le pathos et le mouvement. À droite, nous trouvons Samson, le héros biblique connu pour sa force extraordinaire. La figure, d'apparence vigoureuse, avec son torse nu et sa musculature mise en valeur, se prête bien à personnifier la puissance qui symbolise la force provenant de Dieu. En continuant à observer à droite de la niche absidale, nous rencontrons la première statue assise sur le rebord. L'œuvre, sculptée dans du stuc, représente une figure féminine assise dans une position dynamique, le regard tourné vers le haut dans un geste de confiance et d'attente. Il s'agit de la vertu théologale de l'espérance. La statue est sculptée avec la main droite tenant une ancre, symbole traditionnel de l'espérance chrétienne, qui représente le salut de l'âme et la fermeté de la foi même dans les moments difficiles. À côté, en continuant vers la droite, se trouve la justice. La statue représente une figure féminine assise dans une attitude majestueuse, symbolisant l'impartialité et l'équité de la justice. Le drapé de la robe est sculpté avec une grande habileté, conférant dynamisme et solennité à la composition. Le glaive, tenu fermement dans la main droite, symbolise le pouvoir de la loi et la capacité de la justice à punir les méchants et à défendre les justes. La balance, autrefois présente sur la main gauche, est le symbole de la juste mesure des actions humaines. Elle représentait l'impartialité du jugement. Juste après la justice, la statue de la tempérance, avec sa gestuelle mesurée et sa symbolique, transmet un message clair. L'équilibre et la modération sont essentiels pour vivre une vie vertueuse selon les principes chrétiens et moraux. La femme est représentée en train de verser délicatement de l'eau dans le brasier, un geste hautement symbolique qui représente la capacité à modérer ses pulsions et à tempérer la chaleur des passions par la raison. Cet acte rappelle le concept d'équilibre et de mesure, valeur fondamentale de la tempérance. La dernière statue, placée à côté de la porte d'entrée, à gauche du mur du fond, représente l'Église. La statue est représentée assise, dans une pose autoritaire, avec une gestuelle solennelle qui exprime sa puissance spirituelle et temporelle. Le drapé des vêtements est rendu avec une grande maestria, donnant un sentiment de mouvement et de solennité à la composition. Il porte la tiare papale, représentant le trirégno. Ce couvre-chef à trois couronnes symbolise les trois pouvoirs du pape. L'autorité du pape sur les affaires temporelles, le rôle du pape en tant que guide moral et spirituel de l'humanité, sa mission de représenter le Christ dans l'Église catholique. Cet élément souligne la primauté de l'Église catholique dans le gouvernement des âmes et son lien direct avec la divinité. La clé tenue dans la main gauche représente le pouvoir conféré à Saint-Pierre et à ses successeurs, le symbole du pouvoir de délier et de lier, c'est-à-dire de pardonner les péchés ou d'exclure de la communauté ecclésiale. Le geste de la main droite semble indiquer un acte de bénédiction ou d'enseignement, symbolisant la mission de l'Église dans la direction des fidèles. Sur le mur, au fond de l'Église, entre les deux portes d'entrée, au centre, on remarque un socle surélevé recouvert de marbre. Cet espace était autrefois réservé aux prieurs de la congrégation du Très-Saint-Sacrement avec au-dessus un aigle surmonté d'un puteau avec l'inscription « Silencium ». La cartouche invite les fidèles au silence et au recueillement en présence du Très-Saint-Sacrement. À droite de l'aigle, une fresque représentant Asa et à gauche, Josaphat, œuvre de Filippo Tancredi. Au-dessus de l'aigle, la partie centrale de l'espace est occupée par une loggia dont les arcades sont soutenues par deux colonnes de marbre sombre. Dans la loggia, on trouve une ancienne orgue en bois sculptée, placée en hauteur par rapport aux nefs principales. Cette disposition est typique des oratoires baroques, où l'orgue servait à accompagner les moments liturgiques et les célébrations. Toute la surface au-dessus de la loggia est entièrement recouverte d'une riche décoration en stuc blanc, avec une profusion de motifs floraux, d'anges, de volutes et de cadres baroques, typiques des artisans siciliens des XVIIe et XVIIIe siècles. En déplaçant notre regard vers le mur situé à droite de la loggia, nous pouvons admirer les fenêtres périphériques, toutes richement décorées d'une composition élaborée de putti, de volutes, de feuillages et de motifs floraux qui exaltent la tridimensionnalité de l'espace. Les putti semblent animer l'architecture, émergeant des volutes et des boucles avec des gestes dynamiques. Sous les fenêtres, il y a des étagères trilobées sculptées, sur lesquelles se développent des scènes en relief représentant des épisodes de miracles eucharistiques, contribuant à la narration visuelle de l'appareil décoratif de l'oratoire. Juste en dessous de la première fenêtre, sur l'étagère, est représenté Saint Pascal Bellon, un saint franciscain espagnol connu pour sa profonde dévotion à l'Eucharistie. Il est placé à côté d'une cabane de paille entourée d'un troupeau de moutons, un élément symbolique qui rappelle le thème du bon pasteur et du peuple de Dieu. Dans le deuxième vitrail, le miracle de Turin est représenté sur le rebord. Selon la tradition, lors d'un vol sacrilège, un ostensoir contenant une hostie consacrée a été dérobé, mais l'hostie est restée miraculeusement suspendue dans les airs, empêchant le sacrilège et démontrant une fois de plus la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Sur la tablette située sous le dernier fenêtre à gauche de la niche de l'abside est représenté le miracle de Bolsena qui s'est produit en 1263. Le prêtre, représenté en tenue liturgique médiévale, se trouve à l'autel alors qu'il élève l'hostie consacrée. Son expression est de stupéfaction et de crainte, car l'hostie saigne entre ses mains. Sur le mur opposé, à droite de la niche de l'abside, sur le rebord, est représenté le miracle par lequel saint Antoine de Padoue a démontré la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie à un hérétique qui mettait en doute ce dogme. Le saint, vêtu de l'habit franciscain et auréolé, est représenté alors qu'il montre l'ostensoir contenant l'hostie consacrée. En face de lui, une mule agenouillée en signe de vénération envers le sacrement. Selon la légende, la mule, affamée après 3 jours de jeûne, aurait refusé la nourriture qui lui était offerte pour s'incliner devant l'Eucharistie, démontrant ainsi la vérité de la foi catholique. Sur cette fenêtre, dans la décoration située à gauche entre les masques allégoriques, à mi-hauteur, on aperçoit une petite serpent appelée Asirpusa, que beaucoup reconnaissent comme la signature de Giacomo Serpota, bien que l'on pense que l'oratoire du Très-Saint-Sacrement ait été réalisé par Procopio Serpota, fils de Giacomo, et par d'autres artistes tels que Vincenzo Messina et ses fils, actifs à la même époque à Carini. Juste après, sous la deuxième fenêtre, la Sainte Communion qui représente l'administration de l'Eucharistie à un mourant, un acte d'extrême onction et de réconfort. La dernière scène, placée dans la fenêtre à gauche de la porte d'entrée, représente Melchizedek offrant du pain et du vin à Dieu, moment qui préfigure l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Chers visiteurs, je t'invite à regarder vers le plafond de l'oratoire. La décoration du plafond de la salle principale est l'un des éléments les plus élaborés et les plus riches en symboles. La fresque murale qui occupe le centre du plafond de l'oratoire du Très-Saint-Sacrement est conçue pour mettre en valeur le triomphe de l'Eucharistie et envelopper l'observateur dans une authentique expérience baroque de splendeur et de spiritualité. La surface rectangulaire est entourée d'un cadre en stuc richement orné de motifs végétaux, d'anges et de volutes qui amplifient l'effet théâtral typique du baroque sicilien. Au centre de la scène se trouvent des anges et des figures allégoriques qui brandissent des symboles eucharistiques tels que le calice et l'hostie placés au centre de la composition, soulignant l'idée de la gloire divine qui rayonne du sacrement. Les figures sont disposées en motifs spiralés ou sur plusieurs niveaux verticaux, de manière à créer l'effet d'un ciel ouvert où la lumière, venant d'en haut, illumine les draperies et accentue l'extase des visages. Aux angles de la voûte, on trouve les images des 4 rois bibliques, en levant les yeux à droite de la loggia Josaphat. La fresque le représente dans une attitude méditative, en train de lire un livre, avec un manteau qui enveloppe son corps, créant un contraste chromatique avec le reste de la décoration en stuc blanc. Au-dessus de lui, les stucs baroques, réalisés avec une grande maîtrise, encadrent la scène. Au centre de l'ornementation sculptée, on peut voir 3 poutis qui tiennent une cartouche portant l'inscription « Josaphat », intégrant harmonieusement le nom du personnage dans la composition. Enfin, au-dessus de la scène peinte, est sculptée la demi-buste du roi. À gauche de la loggia, la scène peinte montre Assa enveloppé dans un large manteau au ton sombre, avec une longue barbe et un regard intense. Il est représenté en train de lever un bras, brandissant un sabre, probablement pour souligner son autorité ou son engagement dans la défense de la foi. L'expression du visage et la posture soulignent son rôle de souverain dévoué et réformateur. Au-dessus de la fresque, la décoration en stuc baroque rehausse la scène avec de riches détails ornementaux. Au centre se trouvent 3 poutis qui tiennent une cartouche portant l'inscription « Asa », identifiant clairement le personnage représenté. Encore plus haut, on trouve la demi-buste sculptée du roi Asa, encadrée par des éléments architecturaux et des festons décoratifs. Le visage du roi est entouré d'une couronne et d'ailes déployées, soulignant son autorité et son lien avec la sphère divine. Au centre de la loggia, dans un médaillon encadré de guirlandes de fleurs et de feuilles d'acanthe, est représenté Moïse. Le prophète est représenté avec un aspect solennel et majestueux. Il a une longue barbe et un regard sévère et concentré, typique des iconographies qui le représentent comme le porteur de la loi divine. Il porte un manteau ample au ton chaud qui crée un fort contraste avec le fond sombre de la fresque, mettant en valeur sa silhouette. Dans sa main gauche, il tient les tables de la loi, symbole du pacte entre Dieu et le peuple d'Israël. Elles sont gravées des 10 commandements dont les caractères rappellent l'hébreu ancien. En regardant la voûte, autour de la fresque centrale du triomphe de l'Eucharistie, on voit représentés en alternance les Sibylles et les 4 évangélistes. Selon la tradition chrétienne médiévale et de la Renaissance, les Sibylles, figures païennes, auraient prophétisé, à l'instar d'Isaïe ou d'autres prophètes bibliques, la venue du Messie. Leur présence souligne donc la dimension universelle et prophétique qui converge dans le mystère de l'Eucharistie. Dans la zone du plafond, à gauche de l'autel, nous rencontrons la Sibylle de Cum. C'est la célèbre prophétesse de Cum, située en Campanie, connue pour avoir anticipé l'idée de la venue d'un sauveur. Dans la tradition chrétienne, certaines de ses prophéties sont interprétées comme faisant référence à la venue du Christ. À côté de la Sibylle est représenté Saint Luc, avec à côté un taureau, emblème de la patience et du sacrifice du Christ. L'évangéliste est représenté en train d'écrire son évangile. Juste après la fresque de Saint-Marc avec au premier plan le lion, symbole de force, de royauté et de courage. La composition se termine par la Sibylle de Phrygie qui, selon la tradition classique, opérait dans la région asiatique de Phrygie et qui est également considérée comme l'une des prophétesses païennes qui aurait annoncé l'incarnation du Christ. En regardant le coin supérieur gauche du maître's autel, on trouve la fresque représentant Salomon. Le roi est représenté en train de rendre un jugement, une référence claire à sa réputation de monarque sage et juste, rendue célèbre par la Bible, en particulier par l'épisode du jugement de Salomon. La fresque est encadrée par une décoration scénographique qui amplifie le sens du mouvement et de la théâtralité. Trois poutis, qui tiennent une cartouche avec l'inscription « Salomon », identifient clairement le roi biblique. Des guirlandes de fleurs et des motifs de feuillage encadrent et enrichissent la composition. La composition culmine avec la demi-buste sculptée du roi Salomon placée au-dessus de la fresque. Dans le médaillon situé au centre, au-dessus de la couronne de la paroi de l'abside, est représenté Melchizedek. Le prophète est représenté avec une apparence autoritaire, il porte un riche manteau et une couronne, symbole de son rôle royal, et tient entre ses mains un pain ou un calice, référence claire à son offrande de pain et de vin à Abraham. Sa geste est interprétée comme une préfiguration de l'Eucharistie, sacrement central de l'Église. Dans la partie du plafond, à gauche de l'autel, nous rencontrons la Sibylle libyque, considérée, dans l'imaginaire antique, comme le siège des oracles, elle est représentée de trois quarts, assise sur un trône. À côté d'elle, la fresque de Saint Matthieu est représentée avec le symbole de l'ange, car l'évangéliste aurait reçu l'inspiration divine pour écrire son texte juste après, la fresque de Saint Géant. Il est représenté à côté d'un aigle, symbole de sa capacité à survoler les vérités théologiques les plus élevées, et avec un livre ouvert indiquant qu'il est l'auteur du quatrième évangile et de l'Apocalypse. À côté de la fresque de Saint Jean, la composition du plafond se termine par la Sibylle de Delphes provenant de l'oracle de Delphes dans la Grèce antique. La Sibylle de Delphes est l'une des Sibylles les plus connues citées dans la tradition chrétienne car elle aurait prophétisé la venue du Messie. Maintenant, chers visiteurs, je t'invite à te rendre à l'autel central. Le presbytère est le centre liturgique et spirituel de l'oratoire. On y trouve le maître-autel en marbre précieux, richement décoré, sur lequel est placé le tabernacle doré où est conservé le Saint-Sacrement. Le grand tableau de la scène, attribué à Pietro d'Azaro, dit « Le monocle de Racalmuto domine l'espace ». La scène représente Jésus au centre de la table, entouré des apôtres. L'atmosphère est intime et dramatique, les personnages étant disposés dans des attitudes différentes, certains ayant l'air de converser, d'autres étant saisis par des émotions intenses. Le tableau apparaît sombre et présente de forts contrastes de lumière et d'ombre qui accentuent le pathos de la scène. L'œuvre reflète les caractéristiques de la peinture du XVIIe siècle. Au-dessus de la toile, un groupe sculptural somptueux en stuc se développe autour d'une cartouche centrale portant l'inscription en latin attribuée à Saint Jean Chrysostome « Cogita quali mensa fruaris » qui signifie « Réfléchis bien à quel banquet tu t'approches », soutenu par un aigle, emblème de Saint Jean l'Évangéliste. Sur les côtés de la banderole sont sculptés deux poutis dans une attitude symétrique avec des corps légèrement inclinés et des bras tendus. Tous deux semblent soutenir ou encadrer la banderole avec des motifs de volutes et de feuilles d'acanthe. À gauche du maître-autel se trouve la toile représentant Saint Élie. La toile représente l'épisode biblique où le prophète, épuisé et affamé, lors de son retrait dans le désert, est secouru par un ange envoyé par Dieu. La composition typiquement baroque est pleine de mouvements, l'ange se penchant vers Élie pour lui offrir le pain et l'eau nécessaires pour reprendre des forces. L'ange est la figure dominante dans la partie gauche du tableau, avec des vêtements légers et agités par le vent. Un artifice typique pour donner du dynamisme. Sa main tendant de la nourriture est saisie dans l'acte d'alléger la souffrance du prophète, soulignant la charité et la grâce divine. Sur le mur opposé, la toile représentant la multiplication des pains et des poissons. La scène se déroule au premier plan avec la présence de Jésus et des disciples, tandis qu'en arrière-plan, on aperçoit la foule qui attend la nourriture miraculeuse. Le groupe central est composé de Jésus, enveloppé dans un manteau rouge, et de deux disciples, à côté de lui, qui semblent l'écouter. Au premier plan à droite, on voit un garçon, le petit gars de l'histoire évangélique, qui tend son panier avec quelques pains et des poissons aux apôtres. Derrière les personnages principaux, on aperçoit la foule qui attend, assise ou debout, prête à recevoir la nourriture miraculeuse. Sur la petite voûte du presbytère, les fresques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob renforcent le lien avec l'ancienne alliance et la promesse divine. En 1932, Monseigneur Filippo Potino a consacré une analyse à ses stucs à l'occasion du deuxième centenaire de la mort de Serpota, mettant en évidence l'empreinte indéniable du sculpteur, mais aussi la possibilité d'un travail à plusieurs mains. Quoi qu'il en soit, les décorations conservées ici à Carini témoignent de la grandeur de la tradition serpotienne et constituent un patrimoine artistique et spirituel d'une valeur extraordinaire. Chers visiteurs, notre récit s'achève ici. L'association Jonathan Livingston te remercie d'avoir visité l'oratoire du Très-Saint-Sacrement.